Chapitre 11, dans lequel une comparaison longue d'un mille, dans le genre de M. Pope, sert d'introduction à la bataille la plus sanglante qui se peut donner sans le secours du fer ou de l'acier. Comme dans la saison du rut, terme grossier que le vulgaire emploie pour exprimer les amours des bêtes sauvages, si dans la forêt épaisse de Hampshire, tandis qu'un cerf au bois élevé se dispose à goûter les plaisirs de l'amour, un couple de jeunes chiens, ou quelque autre ennemi de son espèce, s'approche assez du temple de la Vénus sauvage pour que la belle biche abandonne son gîte, frappée de ce je ne sais quoi provenant de crainte ou de plaisir, de pudeur ou de caprice, dont la nature a doué toutes les femelles, ou les a du moins instruites à faire usage, de peur que par l'indélicatesse des mâles, les mystères sacrés ne soient aperçus par des yeux profanes, procul, ô procul, este profani, proclamat vates soloque absistite luco. La sibylle leur donne, éloignez-vous du bois, profane, ah, fuyez et tremblez à sa voix. Si, dis-je, pendant que ces cérémonies sacrées, qui sont communes à tous ceux qui respirent, se célèbrent entre le cerf et sa maîtresse, quelques animaux ennemis osent s'en approcher de trop près, au premier mouvement de la biche effrayée, le cerf fier et terrible s'élance à l'entrée du buisson épais qui lui sert de retraite, s'y tient en sentinelle pour protéger l'objet de son amour, frappe la terre de son pied et, brandissant dans l'air son bois superbe, provoque orgueilleusement au combat l'ennemi qui a osé se faire craindre. Tel et plus terrible encore, à l'approche de l'ennemi s'élance notre héros. Il s'avance hardiment et à une assez grande distance pour dérober à la vue sa biche tremblante et assurer sa retraite. Foincom, ayant d'abord lancé quelques éclairs de ses yeux remplis de fureur, tonna contre lui en ces termes. « Fi, fi, monsieur Jones, est-il possible que ce soit vous ?»« Vous voyez, répondit Jones, que cela est possible. » « Et quelle est, dit Thwackum, la malheureuse qui est avec vous ?»« Si j'ai quelque malheureuse avec moi, s'écria Jones, il est encore possible que je ne vous dise pas qui elle est. »« Je vous ordonne de me le dire sur le champ, reprit Thwackum. Et n'imaginez pas, jeune homme, que votre âge, qui vous donne un peu plus de liberté, vous rende totalement indépendant de l'autorité du maître. Les relations du maître et de l'écolier sont indélébiles, comme toutes les autres relations, car toutes leurs sources dérivent du ciel. Croyez donc que vous n'êtes pas moins obligé de m'obéir maintenant que quand je vous apprenais les premières règles de votre rudiment. Je crois que vous le pensez ainsi, s'écria Jones, mais cela ne sera point, à moins que vous n'ayez les mêmes arguments de branche de bouleau pour me convaincre. Eh bien donc, dit Thwackum, je vous déclare nettement que je suis résolu de découvrir quelle est la malheureuse. « Et je vous déclare aussi nettement, répliqua Jones, que je suis résolu de ne pas vous découvrir qui elle est. » Thwackum se mit en devoir de faire quelques pas en avant, et Jones le saisit par les deux bras. Monsieur Blifil tâcha de le remettre en liberté, déclarant qu'il ne souffrirait pas qu'on insultât son ancien maître en sa présence. Jones, se trouvant engagé avec deux adversaires, crut nécessaire de se débarrasser sur le champ de l'un d'eux. Il s'adressa d'abord au plus faible, et, laissant aller le ministre, il asséna dans la poitrine de M. Blifil un coup qui, arrivé à son adresse, l'étendit à terre, où il prit au moment même la mesure de sa hauteur. Thwackum mettait tant d'importance à la découverte qu'il voulait faire, qu'à peine en liberté, il marcha à grands pas et directement au lieu de la scène, sans s'embarrasser de ce qui pourrait arriver à son ami. Mais il en était encore assez éloigné, quand Jones, débarrassé de Blifil, courut après le ministre et le tira de force en arrière par le pan de son habit. Ce ministre avait été, dans sa jeunesse, un champion redoutable, et par la vigueur de son poing, s'était fait infiniment d'honneur tant à l'école qu'à l'université. Il faut convenir que depuis un grand nombre d'années, il avait cessé d'exercer ce noble talent. Cependant, son courage était aussi fort que sa foi était vive, et la force de son corps ne le cédait ni à l'un ni à l'autre. Il était d'ailleurs un peu irascible de sa nature, comme le lecteur peut s'en être aperçu. Quand il se fut retourné et qu'il eut vu son ami étendu sur la terre, se sentant lui-même assez rudement serré entre les mains de Jones, qui avait toujours été jusque-là patient dans toutes leurs querelles, circonstance qui le rendait encore plus coupable à ses yeux, la patience lui échappa enfin. Il se mit donc en posture de combattant et, réunissant toutes ses forces, attaqua Jones en face, avec autant d'impétuosité qu'il l'attaquait autrefois par derrière. Notre héros reçut le coup de l'ennemi avec l'intrépidité la plus admirable. Sa poitrine en retentit. Il le lui rendit aussitôt avec non moins de violence, visant aussi la poitrine du ministre. Mais celui-ci rabattit adroitement le poing de Jones, qui ne porta que sur son ventre, que 2 livres de bœuf et au moins autant de pudding empêchèrent de rendre un son creux. Il se donna de part et d'autre un grand nombre de coups vigoureux, plus agréables et plus faciles à voir qu'à lire ou à décrire. À la fin, une chute violente de Thwackum, et dont Jones profita pour lui mettre le genou sur la poitrine, l'affaiblit tellement que la victoire n'eût pas été plus longtemps douteuse si Blifil, qui avait recouvré sa force, n'eût renouvelé le combat et n'eût donné au ministre le temps de secouer ses oreilles et de reprendre sa respiration. Ils tombèrent alors tous deux sur notre héros, dont les coups n'avaient plus la même force qu'auparavant, tant il était affaibli par son combat avec Thwackum. Car, quoique le sévère pédagogue, trop souvent armé de verges menaçantes, préféra jouer des solos sur l'instrument appelé le corps humain, il se souvenait cependant encore assez de son ancien talent pour faire très bien sa partie dans un duo. La victoire, suivant l'usage, allait probablement être décidée par le nombre, quand tout à coup, une 4e paire de poings se mit de la partie et tomba sur le ministre. Celui à qui elle appartenait s'écriant en même temps « N'êtes-vous pas honteux? Que Dieu vous donne de vous mettre 2 contre 1 !» Le combat, qui était de l'espèce que par distinction on appelle royale, reprit pendant quelques minutes avec une nouvelle violence. Enfin, Blifil, ayant été une seconde fois étendu tout de son long par terre, sous les coups de Jones, Thwackum se décida à demander quartier à son nouvel antagoniste, qui se trouva être M. Weston lui-même, car dans la chaleur de l'action, aucun des 2 combattants ne l'avait reconnu. La vérité est que le hasard ayant conduit cet honnête gentilhomme, qui faisait sa promenade de l'après-dîner avec quelques autres personnes, tout près du lieu où se donnait cette sanglante bataille, il conclut de ce que 3 hommes combattaient ensemble, qu'il devait y en avoir 2 contre 1. Il quitta précipitamment sa compagnie et, avec plus de courage que de politique, épousa la cause du plus faible. Ce généreux procédé de sa part empêcha très probablement Jones de devenir la victime de Thwackum et de la pieuse amitié que Blifil avait pour son ancien maître. Car, outre le désavantage du nombre, Jones avait encore celui de n'avoir pas repris ses forces depuis l'accident de son bras cassé. Cependant, ce renfort mit fin au combat, et Jones, avec le secours de son allié, remporta la victoire. Chapitre 12. Dans lequel on voit un spectacle plus touchant que n'en pourrait produire l'effusion de tout le sang qui coule dans les veines de Thwackum, de Blifil et de 20 autres de cette espèce. Le reste de la compagnie de M. Weston venait d'arriver sur le champ de bataille au moment où le combat finissait. C'était l'honnête ecclésiastique que nous avons vu dernièrement à la table de M. Weston, Mrs. Weston, tante de Sophie, et enfin la belle Sophie elle-même. Quel aspect que celui d'un champ de bataille tout ensanglanté! D'un côté était étendu sur la terre, pâle et sans respiration, le vaincu Blifil. Auprès de lui se tenait debout le vainqueur Jones, tout couvert de sang, dont une partie lui appartenait, et une autre avait appartenu naguère au révérend M. Thwackum. D'un côté, l'on voyait le dit Thwackum, comme le roi Porus, se soumettant tristement à son vainqueur, et dans l'enfoncement, Weston le Grand épargnant généreusement l'ennemi vaincu. Blifil, qui montrait à peine un signe de vie, fixa d'abord l'intérêt de tous les assistants, et particulièrement de Mrs. Weston, qui avait tiré de sa poche un flacon d'essence de corne de cerf et était occupé à le lui faire respirer, quand tout à coup l'attention générale se détourna du pauvre Blifil, dont l'âme aurait pu, si elle en avait eu l'envie, saisir cette occasion pour faire le voyage de l'autre monde sans aucune cérémonie. Car un objet plus triste et plus aimable était étendue sans mouvement devant eux. C'était la belle Sophie qui, à la vue du sang répandu, ou par crainte pour son père, ou enfin pour quelque autre raison, était tombée évanouie avant qu'on eût pu lui porter du secours. Ce fut Mrs. Weston qui s'en aperçut la première. Elle poussa un grand cri, aussitôt deux ou trois voix s'écrièrent « Miss Weston est morte !» Et chacun de se demandait tout à la fois de l'essence de corne de serre, de l'eau et tous les autres remèdes que l'on emploie en de pareilles circonstances. Le lecteur peut se souvenir que dans la description que nous avons faite de ce petit bois, nous n'avons pas oublié de parler du murmure d'un certain ruisseau. Ce ruisseau ne coulait pas en cet endroit comme ceux qui ne serpentent à travers les romans vulgaires que pour faire entendre leur inutile murmure. Non, la fortune avait voulu ennoblir ce petit ruisseau et lui faire plus d'honneur qu'à aucun de ceux qui baignent les plaines de l'agréable Arcadie. Jones était occupé à frotter les tempes de Blifil, car il commençait à craindre de lui avoir donné un coup trop violent quand les mots « Miss Weston est morte » vinrent à la fois frapper son oreille. Il se releva, abandonna Blifil à sa destinée, vola vers Sophie. Et tandis que tout le reste de la compagnie courait de part et d'autre, chercher de l'eau dans les sentiers les plus arides, il la prend dans ses bras et court à travers le bois au petit ruisseau dont nous venons de parler. Là, se plongeant dans l'eau, il en arrosa abondamment le visage, la tête et le cou de Miss Weston. Il fut heureux pour Sophie que le même trouble qui empêchait ses amis de la secourir les eût également empêchés de s'opposer au dessein de Jones. Il l'avait déjà porté la moitié du chemin avant qu'ils sussent ce qu'il faisait, et il l'avait rappelé à la vie avant qu'ils fussent parvenus au bord du ruisseau. Elle étendait les bras, ouvrait les yeux et s'écriait « Grand Dieu !» au moment même que son père, sa tante et le ministre arrivaient. Jones, qui jusque-là n'avait pas abandonné son charmant fardeau, le déposa aussitôt, non sans lui avoir donné un tendre baiser, qui, si elle eût eu alors parfaitement l'usage de ses sens, n'aurait pas manqué d'exciter ses reproches. Mais comme cette liberté ne parut pas lui déplaire, nous supposons qu'elle n'était pas encore tout à fait revenue de son évanouissement. Cette scène tragique se changea subitement en une scène de joie, où notre héros remplissait, à juste titre, le principal rôle. Car, comme il ressentit probablement un plaisir plus délicieux d'avoir sauvé Sophie que Sophie elle-même n'en ressentit d'avoir été sauvée, aussi ne reçut-elle pas de félicitations plus vives que celles qui furent prodiguées à Jones, notamment par M. Weston, qui, après avoir embrassé sa fille une ou deux fois, pensa l'étouffer en le serrant entre ses bras. Il l'appela le sauveur de sa fille, et déclara qu'excepté elle et sa terre, il n'y avait rien au monde qu'il ne voulût lui donner. Mais en y réfléchissant, il en accepta depuis ses chiens de chasse, le chevalier et la paysanne, nom qu'il avait donné à sa jument favorite. Toute crainte relativement à Sophie étant dissipée, M. Weston s'occupa de Jones. « Allons, mon garçon, lui dit-il, jette là ton habit et lave ton visage, car tu es dans un piteux état, je t'en réponds. Allons, allons, lave-toi et viens au château avec moi, nous verrons à te trouver un autre habit. » Jones obéit, quitta son habit, alla au ruisseau où il lava son visage, et surtout sa poitrine, qui avait été non moins exposée et qui était aussi couverte de sang. L'eau enleva facilement les taches, mais ne put en effacer les marques bleues et noires que Thwackum y avait imprimées. Sophie, les ayant aperçues, laissa échapper un soupir et jeta sur lui un regard plein de la plus vive tendresse. Il ne fut pas perdu pour Jones et produisit sur lui un effet plus violent que toutes les contusions qu'il avait reçues pendant le combat. Mais quelle prodigieuse différence entre ces deux effets! Celui-ci était si doux, si balsamique, que quand tous les coups qu'il avait reçus eussent été autant de coups de poignard, il l'aurait empêché pendant quelque temps d'en sentir la douleur. La compagnie revint aussitôt sur ses pas au lieu où elle avait laissé Thwackum et Blifil. Celui-ci, par le secours de son ancien maître, était parvenu à se tenir sur ses jambes. Nous ne pouvons nous dispenser ici d'émettre pieusement le vœu que toutes les querelles se décident dorénavant avec les seules armes dont nous a pourvu la nature, qui sait mieux que nous ce qui nous convient, et qu'on ne fasse point usage du fer pour percer d'autres entrailles que celles de la terre. Alors la guerre, ce passe-temps des monarques, serait presque inoffensive, et les batailles entre deux grandes armées se donneraient à l'extrême satisfaction de plusieurs dames de qualité qui pourraient y assister aussi bien que les rois eux-mêmes. Alors le champ de bataille serait un moment jonché de corps humains, et le moment d'après, les morts, ou du moins le plus grand nombre, pourraient se relever, comme les troupes de M. Bayes, et se remettre en marche au son du tambour et du violon, comme on en serait convenu auparavant. Je voudrais éviter, s'il est possible, de traiter ce sujet gaiement, de peur de déplaire aux graves et aux profonds politiques qui, je le sais trop bien, s'offenseraient d'une plaisanterie. Mais, sérieusement, une bataille ne serait-elle pas aussi bien décidée par le plus grand nombre des têtes cassées, des nez sanglants, des yeux pochés, que par des monceaux élevés de corps humains, tués et taillés en pièces? Et ne pourrait-on pas disputer les villes de la même manière? Il est vrai que ce dessein pourrait être considéré comme préjudiciable aux Français, en ce qu'il leur ferait perdre l'avantage qu'ils ont sur les autres nations par la supériorité de leur artillerie. Mais je pense trop bien de leur courage et de leur générosité pour n'être pas persuadé qu'ils ne refuseront jamais de se mettre au pair avec leurs adversaires et de rendre, comme on dit, les parties égales. On doit plutôt souhaiter qu'espérer de pareilles réformes. Je me contenterai donc d'en avoir donné une légère idée et je reviens à mon récit. M. Weston voulut connaître l'origine de cette querelle. Blifil et Jones gardèrent le silence, mais Thwackum répondit impudemment : « Je crois que la cause n'en est pas loin, et si vous battez bien les buissons, vous la trouverez. » « La trouver ? » répondit Weston. « Est-ce que vous vous battiez pour une fille ?»« Demandez, » dit Thwackum, en désignant Jones. « Demandez à monsieur qui est là en veste. C'est le mieux instruit de nous tous. »« Comment ? » s'écria Weston. « Il s'agissait donc réellement d'une fille ?»« Ah, Tom, Tom, tu es un vaurien !»« Mais allons, messieurs, soyons tous amis, et venez chez moi faire la paix en buvant. »« Je vous demande pardon, monsieur, » dit Thwackum, « mais ce n'est pas une bagatelle pour un homme de mon caractère d'avoir été ainsi maltraité et souffleté par un enfant, et cela pour avoir voulu faire mon devoir en tâchant de découvrir et de faire punir une traînée. » Mais c'est principalement votre faute et celle de M. Allworthy, car si vous exécutiez les lois comme vous le devriez, vous auriez bientôt débarrassé le comté d'une pareille vermine. « Je le débarrasserai plutôt des renards, » s'écria M. Weston. « Je pense que nous devons encourager celle qui répare les soldats que nous perdons tous les jours à la guerre. »« Mais où est-elle, je t'en prie, Tom? Montre-la-moi. » Il se mit aussitôt à battre les buissons, comme s'il cherchait un lièvre, et finit par s'écrier « Oh oh, le lièvre n'est pas loin. Sur mon âme, voici son gîte. Mais il est parti. » Et rien n'était plus vrai. Il avait découvert l'endroit d'où la pauvre fille, dès le commencement de la querelle, s'était enfuie, sur autant de pieds qu'un lièvre en emploie ordinairement à courir. Sophie pria son père de retourner au château, disant qu'elle se trouvait excessivement faible, et craignait une rechute. M. Weston se rendit au désir de sa fille, car il était le plus tendre des pères. Il insista vivement pour engager toute la compagnie à le suivre et à souper avec lui. Mais Blifil et Thwackum s'y refusèrent absolument. Le premier disant qu'il avait plus de raison qu'il n'en pouvait dire pour ne pas accepter cet honneur, et le dernier déclarant, peut-être avec raison, qu'il ne convenait point que l'on vît un homme de son caractère dans l'état où il était. Jones était incapable de se refuser au plaisir d'être avec Sophie. Il se mit donc en marche avec M. Weston et ses dames, le ministre faisant l'arrière-garde. Celui-ci avait pourtant offert à son confrère Thwackum de rester avec lui, disant que le respect qu'il avait pour son habit ne lui permettait pas de le quitter. Mais Thwackum ne voulut point accepter cette faveur et le repoussa assez impoliment du côté de M. Weston. Ainsi finit ce combat sanglant, et ainsi finira le cinquième livre de cette histoire.